Très bon réveil à tous, voici le journal d'Anne Fauquemberg. Bonjour Anne.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Emmanuel Macron passe à l'offensive à 100 jours des élections européennes. Il dévoile une batterie de propositions dans la presse des 28 pays membres. Le chef de l'État met en avant une Europe qui protège face à la menace du repli nationaliste. Précision de Louise Baudet au début de ce journal.
Emmanuel Macron qui cherche aussi des alliés au sein du Parlement européen alors que le PPE, le parti conservateur, a lancé hier soir une procédure d'exclusion du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Une procédure qui divise au sein du groupe de droite.
En France, après Blanquefort, en Gironde, dont le plan social vient d'être validé, les salariés de Conforama craignent une réduction d'effectifs de 2000 personnes. Explication à suivre de Maxime Debs.
L'ancien Premier ministre algérien Ali Benflis s'engage aux côtés des manifestants. Il entend tout faire pour éviter une cinquième candidature du président Bouteflika.
Et dans le billet politique de Frédéric Seyss à 8h15, l'étrange discrétion de la France sur la situation en Algérie. Enfin, c'est un nouveau scandale dans l'Église catholique. Un documentaire diffusé ce soir sur Arte révèle l'ampleur des abus sexuels des prêtres sur les religieuses. Il ne s'agit pas d'une entrée en campagne, mais d'une impulsion, selon l'Élysée, une façon de planter le décor. Dans les faits, la tribune publiée par Emmanuel Macron ce matin dans la presse des 28 pays membres de l'Union européenne ressemble au contraire à une entrée de plein pied dans la bataille électorale de mai prochain. Au coude à coude dans les sondages avec le Rassemblement national, le chef de l'État a détaillé son programme pour, je cite, une renaissance européenne. Bonjour Louise Baudet.
Bonjour Anne.
Le mot-clé, c'est la protection contre le repli nationaliste.
Oui, terminer l'opposition frontale entre progressistes et populistes à moins de 3 mois des européennes. Emmanuel Macron désigne bien sûr l'ennemi, l'impasse nationaliste, ses mensonges, son irresponsabilité, ce qu'il appelle les exploiteurs de colère qui promettent tout et son contraire. Mais cette fois, il ne nomme pas les Orban, Kaczynski et autres Salvini. Terminer la confrontation musclée car politiquement trop risquée. Il s'agit de convaincre les citoyens inquiets que l'Europe peut les protéger.
Et protection des frontières d'abord.
Oui, avec une police commune et la remise à plat de l'espace Schengen. Sauf que Frontex existe déjà et que le président se garde bien d'évoquer le règlement Dublin qui régit les demandes d'asile et se retrouve au centre des critiques. Protection économique ensuite, via une préférence européenne assumée comme le font les Chinois ou les Américains. Protection alimentaire aussi avec une force sanitaire commune pour éviter les nouveaux scandales. Et bouclier social enfin avec un salaire minimum européen. Sans oublier la protection contre les puissances étrangères. La Russie n'est pas nommée mais elle est clairement désignée. Emmanuel Macron propose une agence européenne de protection des démocraties et veut interdire le financement des partis par des États étrangers, un dispositif qui existe déjà en France.
Et cette tribune, elle donne le coup d'envoi de la campagne en vue des européennes, mais le président réfléchit déjà à l'après.
Oui, ces propositions ne sont pas toutes nouvelles, loin s'en faut, mais elles lui permettent de dénoncer le statu quo. Ni l'europhilie béate, ni le repli populiste. Emmanuel Macron se veut, tient donc central, incontournable dans la future recomposition après les élections, car fin mai, le Parlement de Strasbourg sera plus europhobe qu'aujourd'hui, mais il restera dominé par les forces politiques traditionnelles qui auront bien besoin de son appui. Emmanuel Macron en fait le pari.
Merci Louise Baudet pour vos précisions. Emmanuel Macron parle de protéger notre continent. Il ne dit rien sur l'islamisme, sur l'immigration massive, dit à l'instant le président de LR, Laurent Wauquiez. Il ne s'agit pas d'une entrée en campagne, mais d'une impulsion. C'est ce que disait tout à l'heure l'Élysée. Et Jean-Pierre Raffarin, c'est ce que je cherchais, dit qu'il s'agit au contraire du projet européen le plus abouti. L'ancien Premier ministre, les Républicains, théoricien de la droite constructive, annonce son soutien à Emmanuel Macron. Il s'est exprimé hier soir dans le journal Le Figaro. Un départ qui s'ajoute à celui d'Alain Juppé, autre ancien Premier ministre et représentant de la droite pro-européenne. Bonjour Franck Riester.
Bonjour.
Ministre de la Culture, toujours avec nous sur France Culture. Jean-Pierre Raffarin a appelé à un épiné de la droite et du centre après les européennes. Il en appelle à vous pour construire ce nouveau pôle. Je rappelle que vous êtes le fondateur du parti Agir qui se réclame de cette droite constructive proche d'Emmanuel Macron. On assiste à une redéfinition des lignes politiques à droite.
Oui, c'est évident, il y a une recomposition. C'est pour ça que nous, il y a quelques mois déjà, avec mes amis cofondateurs d'Agir, la droite constructive, nous avons pris la décision de ne plus rester avec les Républicains et de réaffirmer que nous sommes de droite, de centre-droit, une droite modérée, pro-européenne, libérale, sociale et humaniste, et qu'à la volonté d'être constructive, c'est-à-dire de dépasser à un moment donné les clivages politiques, partisans, pour l'intérêt général. C'est ce qu'on fait là, avec l'Europe, en se rassemblant avec La République En Marche, le MoDem et les autres partenaires, vraisemblablement le Parti Radical et les autres partenaires de pro-européens, pour défendre une vision de l'Europe et une détermination à refonder l'Europe, mais pas pour moins d'Europe, pour plus d'Europe. Jean-Pierre Raffarin l'a dit très clairement aujourd'hui dans le Figaro. Nous sommes très proches, vous savez, de Jean-Pierre Raffarin, d'Alain Juppé, de toutes celles et ceux qui sont convaincus que la droite, c'est pas simplement identitaire, c'est pas simplement eurosceptique, c'est aussi pro-européen et humaniste. Et c'est comme ça, à notre avis, en démontrant qu'on se rassemble pour l'essentiel, qu'on sera à la hauteur de nos idées et des enjeux si importants pour la France et l'Europe.
Est-ce que ça veut dire aussi, Franck Riester, vous qui êtes ministre de la Culture, que La République En Marche a son barycentre de plus en plus à droite? On voit par exemple que le président de la République opère une remontée grâce aux plus de 60 ans et également aux électeurs de droite. C'est cela en fait qui explique sa remontée dans l'opinion. Est-ce que finalement c'est devenu un parti de droite, La République En Marche?
Écoutez, je ne sais pas si La République En Marche est devenue un parti de droite. La République En Marche est un parti, se dit un parti de gauche et de droite. Nous, ce qu'on peut dire en tant que président d'Agir, qui est un parti de droite constructif, c'est qu'on se retrouve en grande partie dans un certain nombre de réformes qui est proposées par le président de la République. Je suis membre de son gouvernement, je suis solidaire de ce gouvernement et convaincu qu'il y a des très bonnes choses qui sont, pour certaines, effectivement, proches du centre-droit et de la droite modérée.
Mais alors, de la gauche, qu'est-ce qu'il y a encore de gauche?
Écoutez, il faudra demander spécifiquement à La République En Marche. Moi, je ne suis pas membre de La République En Marche. Et je suis aussi convaincu, là pour le coup, comme lui, qu'à un moment donné, quand on met en œuvre des politiques, et plus à savoir si la politique est de gauche ou de droite, savoir si c'est une bonne politique pour le pays. Et en ce qui concerne l'Europe, je suis convaincu que ce qu'il propose pour l'Europe correspond à nos convictions dans leur très grande majorité et est à même de relever ce défi européen qui est nécessaire à relever pour l'avenir de la France.
Merci Franck Riester. Il est 8h07 sur France Culture, la suite du journal d'Anne Fauquemberg.
Et toujours concernant l'Europe et la droite, les Républicains ne font pas partie des 12 formations politiques du PPE, la droite conservatrice européenne, qui demande depuis hier soir l'exclusion de Viktor Orban, le premier ministre national populiste hongrois. La tête de liste LR, François-Xavier Bellamy, expliquait encore dimanche dernier que le PPE devait se vivre dans la diversité de ses famille politique. Quentin Dickinson, vous êtes notre correspondant à Bruxelles. Les tensions, on le sait, montaient depuis des mois. Vous nous expliquez quelle est maintenant la procédure.
Le Parti Populaire Européen, ou PPE, est une formation conservatrice et la plus importante famille politique européenne par le nombre de ses partis membres. Pour déclencher une procédure d'éjection à l'encontre de l'un de ceux-ci, il faut une plainte en ce sens provenant au minimum de 7 partis issus de 5 pays. Le tollé, suscité par la dernière en date des campagnes anti-européennes dans les médias pro-gouvernementaux et par voie d'affichage dans toute la Hongrie, a poussé pas moins de 12 partis de 9 pays à réclamer officiellement l'exclusion ou à tout le moins la suspension du Fidesz, le parti que préside le chef du gouvernement hongrois Viktor Orban. Ces partis, pour qui c'était la provocation de trop, sont pour l'essentiel en Europe du Nord et au Benelux, mais aussi en Grèce et au Portugal. Au contraire, les LR français ont encore avant-hier renouvelé leur soutien à M. Orban. Le sort de celui-ci sera réglé au pré-sommet du PPE le 20 mars prochain, quelques heures avant le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement. Le départ du groupe PPE au Parlement européen des élus du Fidesz, actuellement au nombre de 11, bénéficierait probablement au groupe des conservateurs et réformateurs dominé par les Polonais et les Britanniques.
8h08.
Après l'usine Ford de Blanquefort en Gironde, dont le plan social a été validé dans la nuit, les magasins Conforama sont-ils sous la menace d'une réduction d'effectifs? Les syndicats ont rendez-vous avec la direction aujourd'hui. Des informations parues dans la presse font état d'une possible saignée. Un cinquième des effectifs, jusqu'à 2000 postes sur 10 000 en France. Il serait même question de vendre l'enseigne, Maxime Debs. Vous nous dites ce qu'il en est exactement.
Pour une enseigne qui s'affiche et se vante d'être le sponsor principal de la Ligue 1 de football, 25 millions d'euros injectés sur 3 ans pour apparaître simplement sur des maillots. Ces rumeurs de salariés qui pourraient être mis sur la touche passent mal. On est loin du fair play pour Aziz Bouchetrit de la CGT Conforama.
C'est un tacle par derrière, c'est incompréhensible. Ça fait 32 ans que j'y suis, j'ai jamais vu ça.
Car aujourd'hui, la situation de l'entreprise dépasse les syndicats. Depuis des mois, le propriétaire sud-africain de l'enseigne inquiète. En grande difficulté, ses comptes de l'an dernier n'ont toujours pas été publiés. On a connu plus rassurant, surtout qu'en transversal, en coulisses, déjà la vente de Conforama serait amorcée. Le concurrent direct But aurait un coup à jouer, c'est sûr, mais les salariés pourraient être les grands perdants du match.
À mon humble avis, c'est la seule enseigne aujourd'hui qui serait à même de reprendre. Sauf que quand on connaît la rivalité qu'il y a entre les deux, dans 70% des cas, là où vous avez un Conforama ou un But, vous avez l'autre qui est juste à côté, juste à proximité. On a vu ce que ça a fait avec la fusion de Darty et la Fnac.
Le dossier Conforama est en tout cas scruté de près du côté de Bercy. Le ministère qui surveille, mais se garde bien pour l'instant de tout commentaire.
Un reportage de Maxime Deps. Un espoir vers la guérison pour les malades du sida. Des chercheurs de l'Institut Pasteur annoncent ce matin avoir réussi à détruire des cellules infectées par le VIH. En laboratoire, ils sont parvenus à bloquer l'infection grâce à des inhibiteurs d'activité métabolique déjà explorés en cancérologie. Deux téléphones portables de la marque chinoise Xiaomi épinglés par l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences. Des tests ont démontré qu'ils émettaient trop d'ondes par rapport à la limite autorisée. Le constructeur est en train de faire le nécessaire pour se mettre aux normes, mais les associations de consommateurs sont inquiètes, Maxime Fayol.
En France, on contrôle les ondes émises par un téléphone avec un indicateur, le DAS, le débit d'absorption spécifique, dont la limite est de 2 watts par kilogramme. Ce DAS, il est mesuré à la tête, mais aussi sur le corps, quand votre téléphone est dans une poche, par exemple. Et sur ces portables chinois, il est de 2,08 watts par kilo, au niveau de la tête. Et c'est le premier dépassement constaté à cet endroit, explique Marc Arasi, le président de l'association PhoneGate.
Le constructeur Xiaomi a trompé les utilisateurs en utilisant un niveau de DAS bien en deçà de ce qu'était la réalité de l'exposition pour les utilisateurs. Nous avons demandé à ce que pour ces téléphones de la marque Xiaomi, tous les téléphones soient recontrôlés systématiquement, au moins pour les 3 dernières années, afin que nous sachions précisément si c'était un cas isolé ou si ça concernait effectivement tous les téléphones de la marque.
Le constructeur Xiaomi a fait une mise à jour qui a permis de réduire ce DAS et de le diviser par 6. Une correction validée par l'Agence nationale des fréquences. Aucune sanction n'est donc envisagée, annonce Gilles Brégan, il est directeur général de la NFR.
Les sanctions sont possibles, c'est des sanctions qui sont financières ou à transfert du dossier au pénal. En l'occurrence ici, il y a un dépassement qui est net, mais ce dépassement n'arrive pas au seuil qui met en danger la santé.
L'agence précise qu'elle ne compte pas contrôler tous les téléphones de cette marque, mais qu'elle reste très attentive sur ce constructeur à l'avenir. En moins d'un an, elle a déjà rappelé à l'ordre 12 téléphones de différentes marques. Deux d'entre eux ont même été retirés du marché.
Explication Maxime Fayol.
8h12 sur France Culture, la suite du journal d'Anne Fauquemberg. Au Japon, le bureau des procureurs de Tokyo fait appel de la décision d'un tribunal de libérer sous caution Carlos Ghosn.
L'ancien PDG de Renault et de Nissan tente pour la troisième fois de se faire libérer sous caution. Accusé de malversation financière, il est incarcéré depuis plus de 3 mois. Carlos Ghosn, qui pourrait toutefois être libéré dans la journée, Frédéric Charles.
Le procureur de Tokyo vient de faire appel devant la haute cour. Il peut encore arrêter Carlos Ghosn sous de nouveaux chefs d'accusation. Si Carlos Ghosn obtient sa liberté conditionnelle après 2 demandes non abouties, ce sera grâce à son nouvel avocat, le fougueux Junichiro Hironaka, surnommé l'avocat des innocents ou le rasoir pour sa défense tranchante et souvent victorieuse d'affaires très médiatisées. En changeant d'avocat, en optant pour une stratégie plus offensive dans un pays où 99% des personnes inculpées sont condamnées, Carlos Ghosn parviendra peut-être à sortir de prison, première étape, dit-il, d'un processus visant à rétablir son innocence. Les conditions de sa libération sont très strictes. Le montant de sa caution est fixé à plus de 8 millions d'euros. Il ne pourra pas quitter le Japon alors que plus tôt il espérait retourner en France dans l'attente de son procès. Ses voyages hors de Tokyo seront très restreints. Il sera placé sous la surveillance de caméras et disposera de moyens limités de communiquer avec l'extérieur. Carlos Ghosn est accusé d'avoir sous-déclaré ses revenus chez Nissan à la hauteur de 82 millions de dollars, d'avoir transféré à Nissan des pertes dans des investissements personnels et d'abus de confiance.
Les précisions de notre correspondant à Tokyo, Frédéric Charles. L'avenir de l'Algérie passe par le retrait de la candidature du président Bouteflika. C'est l'avis d'Ali Benflis, ancien premier ministre, deux fois candidat à l'élection présidentielle et qui a refusé de se présenter en avril prochain. Il ne souhaite pas servir de caution à un régime qu'il juge corrompu et dépassé. Et il préfère soutenir la jeunesse qui s'est encore mobilisée hier dans les rues d'Alger et un peu partout dans le pays. Pour Ali Benflis, l'avenir de l'Algérie passe par le retrait donc de la vie politique du président sortant. C'est la seule façon de résoudre la crise actuelle qui secoue le pays, Nathanaël Charbonnier.
L'ancien premier ministre Ali Benflis a jeté l'éponge pour l'élection présidentielle d'avril en Algérie, mais il a gardé les gants de boxe. Pour lui, la solution pour sortir de la crise passe par le retrait de la candidature du président Bouteflika.
S'il n'y a pas un renoncement à la candidature du cinquième mandat, qui est une candidature à la fois imaginaire et surréaliste, je ne pense pas que la rue se taira.
Et Ali Benflis d'avancer sa solution politique, nomination d'un gouvernement compétent, renouvellement du Conseil constitutionnel et de la commission électorale, car l'ancien Premier ministre veut que son pays devienne enfin une vraie démocratie.
La justice est aux ordres, le Parlement est aux ordres, le Conseil constitutionnel est aux ordres. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Ali Benflis, à court d'arguments, c'est mal connaître l'homme qui entend combattre sur tous les fronts et défaire les arguments du régime. Pour lui, il n'est plus vrai que le pouvoir algérien est l'unique rempart contre le terrorisme dans son pays.
Ou c'est nous, ou c'est la peste. Gardons le système actuel, sinon vous allez retomber dans les années 90. Le terrorisme, c'est fini tout cela. Même ça, ça tient plus la route.
Quant au rôle que peut jouer la France dans la crise, aucun, car l'avenir de l'Algérie est dans les mains de son peuple.
Au Venezuela, l'opposant Juan Guaido a été accueilli en rockstar hier à son retour dans le pays. En dépit des craintes d'être arrêté, il a appelé ses partisans à une nouvelle manifestation samedi pour maintenir la pression sur le régime. Alors que le sommet du Vatican sur les abus sexuels s'est tenu la semaine dernière, un documentaire se pose sur un autre scandale qui touche l'Église. Il s'agit des abus commis par des prêtres sur des religieuses. Le film est diffusé ce soir sur Arte. Religieuses abusées, l'autre scandale de l'Église d'Éric Quitin et Marie-Pierre Rimbaud. Les révélations dépassent tout ce que Véronique Margron avait pu imaginer. Elle est la présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France.
Je suis atterrée. Je suis comme violentée de l'intérieur de moi-même. Ce qui est glaçant, c'est que, bon, qu'il y ait des prédateurs qui sont des sortes de criminels en série, en France, à Rome, partout, malheureusement, on le sait. Mais qu'il y ait en même temps, qu'on voit dans ce documentaire, des communautés complices, des supérieurs qui semblent organiser quelque chose qui relève de trafic humain avec leurs propres sœurs, c'est incompréhensible. Vous vous dites, mais n'importe quelle organisation criminelle ne fait pas pire. Et de voir que ceci est fait sous couvert de la religion, sous couvert du vœu d'obéissance. L'obéissance dans la vie chrétienne, c'est fait pour rendre libre. Ça n'est pas fait pour rendre esclave. Et puis, ce que je trouve très effrayant, c'est ce sentiment que nous avons, de façon assez semblable qu'avec les crimes commis contre les enfants, d'une impunité. C'est une sorte de tabou à l'intérieur du tabou, c'est-à-dire on ne sait même plus à quel niveau de tabou tout cela se trouve.
À 12h30 dans le journal de France Culture, l'une des réalisatrices, Marie-Pierre Rimbaud, sera notre invitée. Et puis dès maintenant, en une de notre site internet franceculture.fr, des témoignages à retrouver. La météo de ce mardi 5 mars, de la pluie au nord, alternance de nuages et d'éclaircies au sud. Les températures actuellement, 8 à Lille et Strasbourg, 9 à Paris, 10 à Cherbourg et Lyon, 11 à Bordeaux et jusqu'à 13 à Marseille. Guillaume Erner.